Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce libre journal. Benjamin Blanchard au micro. Je suis bien sûr avec Henri de Villiers. Bonsoir, cher Henri.
Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, chers auditeurs.
Donc, Henri de Villiers, qui est patron d'émission sur Radio Courtoisie, de l'émission Liturgie et musique sacrée, chaque dimanche à 15h, et maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, qui chante chaque dimanche à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement. Rue du Conservatoire, la grand-messe à 11h et les vêpres à 17h45, ainsi que la messe en semaine pour les fêtes importantes à 19h, le tout diffusé sur la chaîne YouTube IT Missa Est, ainsi que la Divine Liturgie chaque dimanche à 9h15 à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, dans le 16e arrondissement. Et donc nous sommes dans notre série à la découverte des églises d'Orient, épisode 114, et le 48e consacré à l'histoire de la Russie chrétienne. Et avant de reprendre le fil de l'histoire avec les réformes de Pierre le Grand, bien sûr nous allons évoquer la fête du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er août, c'est-à-dire le 2 août.
Le 2 août liturgiquement déjà, donc ça correspond au 19 et 20 juillet dans le calendrier Julien.
J'ai pas osé faire la conversion cette fois après mon dérapage du mois dernier.
Et donc le 20 juillet, c'est une fête de prophète, le prophète Élie. Voilà. Alors c'est pas une grande fête, hein. On a eu au cours de ces émissions des liturgies plus intéressantes peut-être, mais le prophète Élie, qui vécut au 9e siècle avant Jésus-Christ, au royaume d'Israël, sous les règnes des rois Achab et Ocosias. On trouve son histoire principalement dans le 3e et 4e livre des rois. Dans la Vulgate, numérotée 3e et 4e livre des rois. Il est originaire de Tisbé en Galade, et comme dans l'écriture, on ne donne pas sa généalogie, ses parents, ni le récit de sa vocation, en fait, il y a aussi un côté un peu de dimension mystérieuse ou de vie angélique, quelque part, qui est associé à ce saint prophète.
Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que dans la partie orientale du christianisme, Élie est beaucoup plus à l'honneur que dans la partie occidentale,
exact.
Parce qu'on voit énormément d'églises Saint-Élie, on ne voit jamais ça en Occident.
Non. Justement, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être une figure importante pour le monachisme oriental et un modèle de vie angélique aussi. Et beaucoup de monastères sont nommés Saint-Élie. C'est le cas en France d'un monastère catholique de rite byzantin qui est le Carmel de Montbard, Carmel Saint-Élie à Montbard, donc qui a fêté sa fête liturgique. Alors eux suivent le calendrier grégorien, donc le 20 juillet dernier, et qui est une communauté très petite mais très intéressante de religieuses qui vivent selon la règle du Mont Carmel, mais avec le rite byzantin. C'est pas un cas unique dans l'histoire, il y a eu plusieurs greffons comme cela, aussi parce que le Mont Carmel se revendique, l'ordre du Carmel se revendique bien sûr du prophète Élie, parce que les premiers carmes suivaient le rite du Saint-Sépulcre, en fait. C'était un rite latin, le rite du royaume de Jérusalem, et il y a toujours eu cet attrait, même quand ils ont abandonné leur rite propre, cet attrait pour l'Orient, et qui renaît aujourd'hui sous des formes de vie monastique.
À quelle époque l'ont-ils abandonné ce rite propre ?
Alors, c'est Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, en fait, qui au XVIe siècle, lorsqu'ils ont fait la réforme du Carmel, et créé les carmes d'Echaux, adopté les livres romains. Il reste quand même quelques carmes non d'Echaux, notamment aux États-Unis, qui ont toujours le rite du Saint-Sépulcre. Mais c'est des toutes petites communautés, voilà.
Et qu'est-ce que ça veut dire, des chauds et non des chauds?
Des chaussées, alors c'est parce que y a, quand on est déchaussé, on a une plus grande exigence de pauvreté, semble-t-il. Donc voilà, c'était une réforme qui aussi, dans l'esprit de Sainte-Thérèse d'Avila et de Saint-Jean de la Croix, voulait plus d'austérité dans la vie monastique, carmélitaine. Une austérité vraiment terrible, puisque, par exemple, normalement, rien n'est chanté, tout est récité recto tono dans l'office divin, donc c'est un dépouillement extrême, en fait, hein, un peu trop pour moi, personnellement.
Et pourquoi le prophète Élie est-il le patron du monachisme ou le...
Parce que il s'est fui, il a fui le monde. Alors c'est un des épisodes. Il y a plein d'épisodes dans la vie d'Élie qui sont très intéressants. Il y a un moment où il se réfugie près d'un torrent où il est nourri par un corbeau qui lui apporte un fromage. Donc c'est souvent représenté comme scène dans son iconographie. Et puis aussi parce qu'il a fui au mont Horeb où il s'est isolé. Et où Dieu lui a parlé dans le murmure d'une brise légère, après le passage de l'orage, mais Dieu n'était pas là dans l'orage, il était dans la brise légère. Il y a d'autres épisodes fameux qu'on peut rappeler dans l'Écriture, notamment un, hein, que j'aime beaucoup, c'est le sacrifice sur le mont Carmel, en fait, parce que là, il est en confrontation avec les prophètes de Baal, et donc. Ils font un jugement, un genre d'ordalie. Il y a deux autels, et donc celui sur lequel le feu s'allumera sera le signe que c'est le vrai Dieu qui est à l'œuvre, en fait. Donc les prophètes de Baal n'y arrivent pas. Et puis pour l'autel d'Élie, en fait, il leur dit de mettre de l'eau, de l'inonder d'eau, en fait.
Pour que ça soit le plus
Le
difficile.
plus difficile possible, et évidemment le feu du ciel tombe, et puis le sacrifice d'Élie est agréé par Dieu, et donc c'est la victoire sur les prophètes de Baal. Voilà, il y a aussi un autre épisode important dans la vie du prophète Élie, c'est lorsqu'il ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. C'est une image de la résurrection qui est reprise dans la liturgie byzantine, puisque c'est une des leçons phare qui est dite pendant la vigile pascale, avec 14 autres prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de résurrection. Et puis aussi, il y a un.
Je crois nous en avions abondamment parlé dans l'émission consacrée à Pâques dans la première
Oui,
partie.
tout à fait. Et donc, c'est une figure aussi parce que. Sur le mont Tabor, lors de la Transfiguration, qui est un passage qui est plus en honneur en Orient qu'en Occident, eh bien le Christ apparaît entouré de Moïse et d'Élie. Et aussi, un point
Alors, je
intéressant.
sais pas si c'est le cas en Russie, mais c'est vrai qu'au Levant, dans les chrétientés melkites,
Oui.
c'est vraiment une des fêtes les plus importantes de l'année, la
Tout à fait.
Transfiguration.
Tout à fait. C'est le cas aussi en Russie,
Et
oui.
aussi d'un point de vue populaire.
Oui. On l'appelle la fête du sauveur des pommes en Russie, parce que.
C'est pas Jacques
Oui,
Chirac.
c'est bizarre. C'est parce qu'en fait, normalement, le jour de la transfiguration, on doit bénir le raisin. Et c'est quelque chose qui remonte aux apôtres. Hein. C'est vraiment universel dans l'Église. Dans le rite romain, c'est le 6 août qu'on bénit le raisin, avant même qu'il y ait la fête de la transfiguration.
Et chez les Arméniens, ils font pas ça pour l'Assomption.
Oui, parce que le raisin arrive plus tard en Arménie, mais c'est les seuls. Tous les autres rites, syriaque, copte, etc., c'est le 6 août le raisin, qu'on bénit le raisin. Et en fait, en Russie, bah, quand vous êtes dans les fins fonds des rives de la mer Blanche, c'est pour bénir le raisin le 6 août, c'est pas très facile. Et en fait, on a substitué historiquement au raisin les pommes. Donc les prêtres bénissent des pommes en disant la prière pour la bénédiction des raisins. Et donc, dans le nom populaire, c'est la fête du sauveur des pommes, en fait.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que dans
Mais c'est.
la prière de bénédiction, on remplace quand même raisin par pomme ou on bénit des ra... on
On
parle de raisin
parle de raisin,
alors que
oui.
ce
On
sont des
parle de...
pommes
Et ce
de...
sont des pommes. Alors, bien sûr, avec la vie moderne et les facilités du commerce, on a du raisin en Russie. Donc, maintenant, le 6 août, vous avez les paroissiens qui viennent avec chacun leur panier de fruits, dans lesquels il y a des raisins, mais aussi des bananes, des pommes, et voilà. Donc,
Je me souviens encore lors de mon premier voyage, dans, premier séjour. Alors c'était dans l'ex-Union soviétique, c'était en Biélorussie, comme ils étaient très fiers de nous montrer qu'ils avaient des bananes.
Ah oui.
Donc c'était en 2000,
Oui, bah oui,
en
c'est
2000, je pense. Et
pendant des siècles, c'était
ça faisait pas si
impossible.
longtemps qu'ils avaient des bananes et nous montraient leurs bananes.
Moi, je me souviens d'avoir assisté à la fête de la Transfiguration à Saint-Pétersbourg avec les grands clercs de la paroisse Saint-Eugène. Et en effet, tous les fidèles venaient après la divine liturgie faire bénir leur panier de fruits par le prêtre, en fait.
Alors en Syrie, j'ai aussi assisté à la fête de la Transfiguration et j'ai pas souvenir de voir des bénédictions de
De
raisins.
raisin.
Mais par contre, dans le village de Maaloula, bien c'est comme une répétition pour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Donc
Oui.
après les premières vêpres de la fête, il
Il y a
y a
des
la
feux de
grosse
joie.
fête populaire avec les feux de joie où ils allument des grands bûchers sur chacune des deux montagnes qui entourent le village. Donc il y a la montagne des orthodoxes et celle des catholiques. C'est à qui fera le plus grand feu. Et ensuite, ils enflamment des bûches et ils les font tournoyer au bout d'une chaîne pour faire comme des feux de joie. Et puis aussi des pneus enflammés qui font dévaler de la montagne jusqu'en bas. Évidemment, ça tombe, ça arrive régulièrement sur des maisons auxquelles cela met le feu, mais c'est pas grave.
C'est la fête.
Voilà, donc ça c'est la répétition parce que après, quoi, c'est une fête, mais en plus petit par rapport à la Sainte-Croix, où là c'est encore 10 fois plus grand.
Alors, le prophète Élie, pour revenir à lui, a une particularité très intéressante aussi, c'est qu'il n'est pas mort. Il n'a pas subi la mort, puisqu'en fait, dans l'écriture, il est enlevé au ciel sur un char de feu. Et en partant, il jette son manteau à son disciple Élisée, c'est-à-dire c'est une transmission de sa charge de prophète. Et donc, en fait, la Vierge Marie n'est pas la seule à être montée au ciel avec son corps lors de l'Assomption. Il y a le prophète Élie, puis un autre personnage de l'Ancien Testament aussi, dans la tradition chrétienne, qui est le patriarche. Ah zut, j'ai un trou tout d'un coup. Ah, qui lui aussi est emporté par Dieu à la fin de sa vie.
Bon, c'est pas grave, nous
Je
retrouvons.
suis trop fatigué, désolé. Et dans la tradition byzantine, il y a encore un autre personnage qui, semble-t-il, n'a pas connu la corruption corporelle au moment de la mort, et qui est Saint Jean, l'apôtre et évangéliste, puisqu'on parle de son repos, de son sommeil. Et il y a un texte de Saint Augustin très intrigant et très intéressant qui laisse entendre effectivement que Saint Jean n'a pas subi la corruption corporelle, lui non plus, comme la Vierge, comme le prophète Élie, comme
C'est le
le patriarche
patriarche
Hénoc.
Enoch.
Voilà, ça me revient. Patriarche Hénoc. Donc la Vierge Marie n'est pas un cas unique dans l'histoire humaine. Au moins trois, voire quatre personnes sur cette terre n'ont pas connu le passage par la mort corporelle, semble-t-il. Alors on va écouter quelques pièces de la liturgie byzantine en slavon. Qu'on peut écouter dans les églises russes pour cette fête de Saint-Élie. D'ailleurs, c'est un point général que dans la liturgie byzantine, tous les prophètes de l'Ancien Testament sont fêtés comme des saints, ce qui n'est pas le cas dans le rite
Demain,
romain.
donc, à la paroisse russe catholique, ce sera la liturgie de Saint-Élie.
Saint-Élie, alors on n'aura pas la divine liturgie probablement à l'heure à laquelle on nous enregistrons parce que on a de plus en plus de divine liturgie, mais là l'été c'est un petit peu plus complexe. Donc on aura probablement l'office des matines. le matin. Mais en tout cas, si vous avez une église russe à côté de chez vous, c'est ce que vous entendrez effectivement. Voici donc le Troper ton 4, ange dans la chair, fondement des prophètes, second précurseur de l'avènement du Christ, ô glorieux Élie, ayant d'en haut envoyé à Élisée la grâce de chasser les maladies et de purifier les lépreux, tu fais aussi jaillir les guérisons sur ceux qui t'honorent.
Et donc, nous venons d'entendre le tropaire de la fête de Saint-Élie. Ça va
Saint-Élie,
vite.
ça va très vite parce que ce sont des antiennes en fait hein, qui reviennent à plusieurs moments. Historiquement, le troper, c'est une pièce qui est chantée à la fin des vêpres et qui était à l'origine l'antienne du cantique de Nunc Dimittis en latin
Cantique de
de
Siméon.
Siméon. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Maintenant, c'est toujours une antienne, mais qui est un petit peu détachée, mais pas très loin quand même de ce cantique. Et de là, cette pièce est partie un peu partout dans l'office, en fait, hein. On la chante aux matines, on la chante à la Divine Liturgie, elle est récitée à toutes les heures de l'office divin de chaque jour. Donc c'est une des deux pièces emblématiques de tous les jours liturgiques, comme vous le savez bien, si vous êtes fidèle de cette émission.
Et la
Et
seconde est...
le Kondakion. Et peut-être avant d'écouter le Kondakion, un petit mot sur ce qu'on vient d'écouter. Le mois dernier, la fête, enfin oui, on avait évoqué la Saint-Pierre et Saint-Paul.
Oui, un saint un peu connu, dont j'ai oublié
Oui,
le nom.
Saint Eusèbe de Samosate. Et en fait, on avait surtout parlé de Saint-Pierre et Saint-Paul et on avait écouté le Troper et le Kondakion de Saint-Pierre et Saint-Paul, mais c'était des compositeurs donc qui avaient composé des pièces propres. Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est vraiment le ton 4 de base. Qui s'applique sur n'importe quel texte. En fait, on applique des formules de Faux-Bourdon qui reprennent un peu un chant, un plein chant, comme le chant grégorien, si vous voulez, mais ça a été harmonisé à quatre voix. Et donc là, c'est l'harmonisation la plus classique, synodale, du ton 4 qu'on vient d'écouter et qu'on va avoir pour les autres pièces aussi. Et ceux qui chantaient étaient les moines du monastère de Sretensky, de la Rencontre, si vous préférez, à Moscou. Que nous connaissons bien aussi sur ces ondes et qui sont un des fers de lance de la renaissance spirituelle de la Russie depuis la chute du communisme, en fait.
Et alors, quelles sont les paroles de ce Kondak?
Le Kondakion à la grecque ou Kondak à la russe, c'est aussi au départ une pièce qui était chantée à matines, qui est toujours chantée à matines et qui est répétée à toutes les petites heures de l'office et qui est aussi chantée à la Divine Liturgie des jours de tous les jours. Donc c'est avec le Troper l'autre pièce emblématique de n'importe quel jour de l'année liturgique
Donc,
byzantine.
petites heures, c'est tierce, sexe,
Oui,
none.
prime, tierce, sexe, none, oui. Alors voici sa traduction. Prophète et contemplatif des grandes œuvres de notre Dieu, Élie au nom glorieux, toi qui, par ta parole, as arrêté les nuages porteurs des eaux, intercède pour nous auprès de l'unique ami des hommes.
Donc nous venons d'entendre le Kondak de la fête du prophète Élie de Saint-Élie, dont vous avez entendu la traduction juste avant. Et là encore, c'est un ton simple, ce n'est pas mis en musique.
Oui, tout à fait. Là, c'est le ton 2
Et c'est toujours dans les moines
standard.
du monastère
Toujours, oui, toujours,
Sierzenski.
toujours. Et puis, j'ai choisi une troisième pièce aussi emblématique de l'office, après le Troper et le Kondak, qui, elle, n'apparaît que les jours de fêtes importantes. Selon la terminologie grecque, on l'appelle mégalinère, vielichaïem selon les Russes, c'est-à-dire nous te magnifions. Ce texte commence toujours par ces mots, nous te magnifions. C'est une
Qu'est-ce que ça
pièce
veut dire, mégalinaire?
grand quelque chose, je sais pas. Et c'est une pièce qui est chantée au moment où on apporte l'icône de la fête, donc là l'icône du prophète Élie, au centre de l'église. Et où elle est encensée solennellement, c'est un peu au début de l'office des matines.
Et ça veut dire que toutes les églises ont forcément une icône du prophète Élie.
Normalement, toutes les églises ont toutes une icône du Saint du jour. Donc ça fait au moins 365 icônes, mais c'est plus compliqué en fait que ça. Alors il y a des habitudes. Bon, là c'est une fête importante quand même, notamment dans les monastères où elle est toujours très célébrée. Et c'est pas un hasard que les trois enregistrements que je vous propose soient des chœurs du monastère Sretensky de Moscou, parce que pour les moines c'est un des modèles de la vie monastique en fait. Et donc on aura assez volontiers une icône de Saint Élie. Après Saint Eusèbe de Samosate par exemple,
Je suis pas sûr qu'il y
du
ait
mois
une
dernier,
icône dans
voilà,
tous les dans toutes
voilà.
les paroisses
Non.
russes.
Non, mais par contre, un usage assez amusant, je trouve, qu'on voit beaucoup en Russie depuis au moins le XVIe siècle, peut-être avant, c'est on a des icônes par mois. Donc il y a 12 icônes, et sur chaque icône, il y a les 28, 29, 30 ou 31 saints du mois, en fait. Donc chacun a une petite case avec sa figure. Et
Ah
du coup, ça
oui.
permet d'avoir tous les saints du mois, même si c'est pas un saint, on peut l'honorer parce que il est sur l'icône du mois. Donc on la
Oui, je
propose au
m'étais
milieu de
toujours demandé
l'église.
pourquoi il y avait ces icônes avec ces cases, avec plein de saints.
Voilà. C'est des icônes de Méné, donc ça permet à tous les saints d'être honorés. Et ils ont tous leur icône qui est vénérée au jour de la fête.
Et s'il y a une paroisse où il n'y a pas l'icône du saint, on peut quand même le fêter ou?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, le mégalinaire, par exemple, c'est une pièce qui n'est faite que pour les grandes fêtes. Un petit saint comme Saint Eusèbe de Samosate, il n'y a pas de mégalinaire pour lui, ça n'existe pas. Donc,
Donc
oui, on va pas encenser son icône, quoi qu'il arrive. Si jamais on a son icône dans l'église, on peut la mettre quand même sur un pupitre pour la porter à la vénération des fidèles. Mais voilà, c'est pas
Et par
prévu.
exemple, à la Très Sainte Trinité, vous avez une icône du prophète Élie.
Oui.
Donc tout va bien.
Même si la paroisse n'est pas extrêmement riche en icônes, on est plutôt bien pourvu. Tous les saints importants y sont, en fait.
Alors nous allons écouter ce mégalinaire.
Mégalinaire, alors c'est un enregistrement comme les enregistrements de Sretensky qui sont faits non pas en studio, mais qui sont des extraits de cérémonies. Et en fait, comme je vous ai dit, pendant ce mégalinaire, on encense l'icône. Donc vous allez
Donc on
entendre
entend les
les
grelots.
grelots des encensoirs. Voilà.
entendre le mégalinaire de la fête de Saint-Élie, du prophète Élie, chanté par les moines du monastère Sretensky, donc le monastère de la rencontre à Moscou. Peut-être pouvez-vous nous donner la traduction,
bien sûr,
Henri.
Donc nous te magnifions, ô saint et glorieux prophète de Dieu Élie, et nous vénérons ton très glorieux enlèvement au ciel sur un char de feu.
Alors je crois que nous en avons fini avec la fête du jour.
Oui.
Et donc nous allons reprendre le cours de l'histoire russe après cette première partie.
Oui, tout à fait.
C'est bien ça. Et donc la dernière fois, nous avions vu les guerres menées par Pierre le Grand contre la Suède, où il était allié à la Pologne, parce que oui, c'est arrivé que la Pologne et la Russie fussent alliées. Mais après cette victoire
pour le bien de la Pologne, du reste, hein, parce que du coup, ils ont pu garder leur souverain et
survivre
le retrouver.
Presque un siècle de plus.
Ouais.
Et donc après cette victoire russe dans les plaine méridionale de l'Ukraine actuelle,
à Poltava,
donc ça marque la fin du siècle d'or suédois, de la domination de la Suède sur l'Europe du Nord et de l'Est, et avec la défaite de Charles XII, et donc suite à cette grande victoire, Pierre le Grand va en profiter pour mettre en œuvre de nombreuses réformes pour développer, moderniser sa patrie.
Oui,
parce qu'il y a déjà bien cette conscience de la patrie, puisque dans un texte que vous nous aviez lu de Pierre le Grand, il a rangé ses troupes non seulement pour combattre pour la couronne, pour le souverain, mais aussi déjà pour la foi orthodoxe et aussi pour la patrie.
Oui, et d'ailleurs, on a dans l'historiographie occidentale une image de Pierre le Grand plutôt comme un souverain laïque en opposition avec l'Église qui veut couper la barbe des popes, etc. Et en fait, quand on voit en pratique, il se réfère à Dieu en permanence, en fait, hein, et c'est un vrai croyant, et pour lui cette guerre est aussi une guerre théologique quelque part, hein, déjà. Et puis Poltava, c'est vraiment la grande victoire. Même encore dans l'imaginaire russe, en fait, tous les jeunes écoliers connaissent Poltava. Enfin, c'est le grand succès militaire emblématique. Et ils étaient quand même très supérieurs en nombre, hein, mais c'est vrai que c'est une...
Ils avaient plus de canons aussi.
Ils avaient plus de canons, 72 contre 4, puisque les canons suédois avaient fini coulés au fond des rivières pendant le terrible hiver 1709, parce que les chevaux mouraient les uns après les autres à cause du froid. Et en fait, ce qui m'a beaucoup, quelque part, intrigué et sur la personnalité de Pierre le Grand, c'est qu'il écrit le soir même de la victoire de Poltava, il écrit à son ami d'enfance qui est devenu l'amiral en chef de la flotte russe, le comte Apraxine. Il lui dit, ils faisaient du canot ensemble sur les rivières dans leur enfance, et il lui dit « Maintenant, la première pierre pour la fondation de Saint-Pétersbourg est posée avec l'aide de Dieu. » C'est-à-dire que pour cette victoire de Poltava, va pouvoir l'aider à faire son projet, son grand projet, la réforme de la Russie, la création d'une nouvelle capitale, la ville de Pierre, Pétersbourg.
Plus tournée vers l'Europe.
Plus tournée vers l'Europe.
Tournée vers l'extérieur en général, puisqu'au bord d'un océan, quoi, d'une mer.
Et il a la claire conscience immédiate qu'en fait, l'auréole dont il va être orné désormais pour le peuple russe va lui donner une légitimité pour entreprendre des réformes. Des réformes difficiles, des réformes qui vont être complexes, des réformes qui vont être profondes. Qui pourront passer parce que c'est le grand vainqueur, en fait. Ce qu'on va voir en cours de cette émission aujourd'hui. Je l'espère.
Quelles seront ces réformes?
J'avais évoqué en fin d'émission dernière que c'était pas les premières réformes de la Russie, que la Russie a toujours cherché à se réformer, qu'elle a toujours eu cet attrait aussi pour l'étranger européen. Sous Ivan III, par exemple, on se souvient que les cathédrales du Kremlin avaient été construites par des Italiens.
Il y a un peu les deux attraits, on a l'impression. Parfois, c'est l'attrait vers les européen qui domine, et parfois c'est l'attrait vers l'Est.
Vers l'Asie, mais pas tant que ça en fait, parce que l'Asie est plus terre de conquête ou d'opposition, mais alors c'est en train de changer justement, c'est ça, c'est la grande bascule des événements actuels, c'est que se voyant repoussé par l'Europe occidentale, la Russie se tourne beaucoup plus volontiers vers la Chine. Et ce qui est très dommage au sens civilisationnel peut-être, hein, mais bon, c'est un autre débat. Mais là, le coup de bascule vers l'Occident va être radical, effectivement, avec Pierre le Grand. C'est pas tellement un changement de la Russie qu'il veut, c'est qu'il veut qu'elle soit qu'elle soit au même niveau que les autres, en fait. C'est pas changer la civilisation russe, mais c'est qu'elle soit au taquet, qu'elle puisse rivaliser avec les autres. Et donc, en fait, c'est plus cette idée d'espionnage qu'il a mise en œuvre quand il était jeune, où il était parti faire charpentier de marine en Hollande, etc. On veut récupérer le meilleur, mais pour le prendre pour nous, en fait, hein, pour nous progresser, pas forcément pour devenir autre. Donc, évidemment, comme on peut imaginer, il y aura
Des
des
résistances.
résistances et une résistance qui est inhérente à l'âme russe, puisque en russe, il y a un dicton populaire qui dit « Nouveauté vaut calamité ». Et donc, c'est une société qui est profondément traditionnelle et profondément opposée au changement. Que ce soit la noblesse qui a toujours vu les réformes des tsars autocrates de façon très suspicieuse, parce qu'en fait, c'était perdre aussi son autorité. L'autocratie qui s'est progressivement mise en place, comme on l'a vu dans ces émissions, bien sûr de la part de l'Église russe, plus évidemment du côté des partisans du schisme, des Raskolniki, qu'on a longtemps évoqués au cours de ces émissions. Eux, évidemment, c'est l'hostilité maximale. Changer même la façon de s'habiller, c'est une hérésie, c'est un schisme, c'est être l'antéchrist. Mais même, bien sûr, dans
Je
l'Église
rappelle, c'est
officielle, il y
ce qu'on
aura des
appelle les
amis,
vieux croyants.
les vieux croyants, voilà, qui sont arc-boutés sur la défense de la tradition russe, dans les moindres détails. Évidemment, ça va être compliqué de faire bouger toute une nation qui est autant attachée à la tradition. L'exemple que va donner le tsar par sa vie lui-même ne va pas suffire. Il faudra des forces de persuasion plus extrêmes et pour entraîner tout le monde dans la voie du progrès. Donc, il y a dans tous les oukases qu'il va sortir, tous ces décrets donc, qui vont dans le moindre détail chercher à réformer la société, eh bien, il y aura toujours la peine du knout ou bien la peine de mort aussi hein, pour ceux qui ne voudraient pas changer. Il y a une belle formule que j'avais lue, je ne sais plus si je l'ai notée. En fait, quelque part, Pierre le Grand veut apporter la liberté. À coup de trick, en fait. Voilà, c'est ça. Il habituait à coup de canne ces gentilshommes à se sentir des hommes libres et des Européens.
Alors, quelles sont les réformes
Alors,
mises
les
en
réformes,
œuvre?
elles sont très nombreuses, il y a énormément de décrets dans tous les sens. Donc, j'ai essayé de parler plutôt par thème. Et donc pas forcément dans une chronologie stricte. Mais avant de voir les réformes elles-mêmes, quelques traits généraux sur ces réformes. Donc, on a vu, il y a une volonté, bien sûr, d'ouverture et d'innovation, de progrès, d'ouverture sur l'Occident. Mais ces innovations, ce progrès, ce sens du progrès, cette vision du progrès, ne doit pas porter préjudice à l'autorité du prince. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre restera toujours l'autocrate de Russie et il entend le rester. Et en fait, c'est même constitué un État moderne, mais encore plus despotique qu'avant, parce que justement, il y aurait la mise en place d'une administration encore plus précise que celle
De ce
de ses
type même de
prédécesseurs.
l'idéal du 18e siècle, du
Du
despote
despote
éclairé.
éclairé, oui, peut-être, oui. Donc ça, c'est un point intéressant à souligner. Il va rester tout aussi autocrate qu'un Ivan le Terrible, hein, mais il aura des moyens plus parfaits que n'avait Ivan, parce qu'il va avoir des agents, il va avoir des cadres administratifs,
Une vraie administration.
une vraie administration, et même des systèmes de délation, et comme on va le voir, très perfectionnés pour contraindre dans le moindre détail les différents acteurs de la société russe à évoluer. Alors, il y a aussi le fait qu'il se trouve dans un état qui reste très paysan, donc très attaché à la terre. Ça va être aussi compliqué. Les structures patriarcales traditionnelles sont bien sûr extrêmement présentes. Et ça va être compliqué de faire évoluer cette société russe. Mais le projet est vaste, en fait. Donc c'est une réforme tout azimut. La bureaucratie, l'industrie, l'enseignement, la diplomatie, l'armée, voilà, on va aller dans tous les sens. Alors, ces réformes, c'est toujours avec la volonté de reprendre la civilisation d'Europe de l'Ouest, en fait, hein. Donc, les modèles sont en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, en Écosse aussi, la Suisse, un peu la France, mais pas tant que ça, finalement.
Est-ce qu'on a une idée pourquoi pas tant que ça la France? Parce qu'il y avait peu de liens.
Oui, et puis les missions diplomatiques n'ont pas été très, remplies de succès, en fait, hein. Il y a eu plusieurs tentatives d'approche de Louis XIV, ça n'a pas donné grand-chose, en fait. Je pense que le roi Soleil ne voyait pas d'avantage particulier à commercer ou à s'allier
Oui, puis
à la
c'était
Russie.
l'ennemi des Suédois
Voilà, c'est
aussi.
ça, exactement. Donc ça a dû jouer également. On va prendre des aspects de civilisation, mais sans faire de tri vraiment, et sans porter de réflexion, sans faire un travail de critique, de triage. Donc on va prendre tout, y compris le mauvais, en fait, qui vient de ce modèle idéalisé quelque part. Alors, il va y avoir des réformes sociales, des réformes administratives, des réformes judiciaires, des réformes de l'Église aussi, qui vont bien sûr nous intéresser tout particulièrement.
Et qui vont bien sûr provoquer des résistances acharnées.
Pas tant que
Pas
ça,
tant que
pas tant
ça.
que ça. Pas tant que ça.
Ça avait été assez maté la dernière fois.
Voilà, on va commencer par les réformes sociales. Et là, il y a une volonté de faire rentrer la société russe dans des cadres. Dans des cadres très précis. On va commencer par les paysans. Donc, il y avait déjà traditionnellement plusieurs catégories. Il y avait une première catégorie de paysans libres, qui parfois étaient des nobles désargentés, ruinés. Et puis, qui avaient donc leurs propres terres. La deuxième classe, les polovniki, c'est un peu des métayers qui ont un peu de liberté et qui cultivaient la terre des nobles avec pour eux l'obligation de livrer la moitié des récoltes aux propriétaires terriens. Et puis en fait, la masse des serfs par-dessous, qui, on l'a vu au départ, était une catégorie. Pas du tout d'esclaves, hein. Au Moyen Âge, le servage en Russie était très différent du servage dans nos contrées d'Europe de l'Ouest. Les serfs étaient libres de passer d'un propriétaire à un autre. Et puis on a vu au cours de nos émissions que progressivement, ça s'était
C'était durci et rigidifié.
rigidifié et que on était passé finalement à un état d'esclavage de fait. Et en fait, on pourrait imaginer que Pierre le Grand.
Aux grandes dames, d'ailleurs, je rappelle des grands propriétaires.
Oui.
qui étaient plutôt d'accord avec le changement de...
Oui, parce que ça leur permettait, comme ils étaient plus attractifs, d'attirer des serfs de nobles plus pauvres. Et donc les tsars, Boris Godounov notamment, avaient rigidifié le système pour empêcher une concurrence déloyale entre grandes nobles et petits nobles, en fait. Et Godounov s'était allié à la petite noblesse contre les grands boyards, justement, et c'était un aspect de sa politique. Alors là, on aurait pu imaginer, par exemple, sur la question du servage, que Pierre le Grand ait pris de...
Il puisse l'abolir.
Oui, parce que en fait, bon, la situation existait toujours en France, par exemple. Il y avait un servage, mais c'était très très nominal. Dans la pratique, on était très loin d'une forme d'esclavage, en fait. Hein. Les droits seigneuriaux étaient réduits à quasiment rien avant la Révolution. Voilà. Enfin, je vois dans ma propre famille, tout le monde rigole de ça parce que. Les droits seigneuriaux consistaient à une poule tous les ans à la Saint-Thomas. C'était ce que devaient verser les paysans. Donc, c'était pas. Voilà.
Oui, c'était pas énorme.
C'était pas énorme. On comprend qu'ils aient cherché fortune sur les mers du monde après.
Donc, nous allons entendre un bobino.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Oui, alors bravo à Radio Courtoisie d'avoir mis en place ces podcasts. J'attendais depuis très longtemps et je suis très content, donc bravo.
Cette émission en fait partie.
Toutes les émissions sont en podcast avec différentes catégories sur toutes les plateformes. Et donc, on peut les écouter beaucoup plus facilement, je trouve, si on fait autre chose, etc.
Donc, je disais qu'on pouvait s'attendre avec une idée de modernité que Pierre le Grand s'attaque à la question du servage et modernise un peu la situation en Russie. En fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que là où il y avait encore une certaine liberté d'action chez les métayers, chez les paysans libres, eh bien, ils vont être confondus avec les serfs, en fait. Et donc...
Et pourquoi ? Pourquoi fait-il ça ?
Je pense que c'est pour avoir un outil de production agricole stable. En fait, le grand problème historique de la Russie depuis plusieurs siècles, c'est que beaucoup de paysans, quand ils ont des disettes et des famines, deviennent quelque part des pirates, ces fameux cosaques, et se constituent en bandes, en fait. Et c'est des choses qui sont compliquées à gérer pour un pouvoir central. Et en fait, ce qui va surtout être... acté par Pierre le Grand dans sa politique sociale pour la paysannerie, c'est l'obligation à résidence. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes né là, vous dormez là, vous mourrez là, vous mariez là, mais vous ne pouvez plus vous déplacer et vous n'avez plus de liberté de fait. Donc les paysans qui étaient libres de se déplacer, les serfs qui avaient été astreints à rester avec le même maître depuis Boris Godounov, eh bien tout le monde est dans le même bateau finalement. On est attaché à la résidence. Et ça va de pair avec une réforme fiscale qui va être l'instauration de la capitation, c'est-à-dire un impôt par personne. D'un impôt par tête, alors que jusqu'à présent, l'imposition en Russie était faite par feu, par foyer. Et ce qui est plus compliqué à mettre en œuvre et qui rapporte moins d'argent, en fait, parce que...
Par tête ?
Par foyer, par feu. Oui, parce que 10 personnes sur le même toit, c'est plus intéressant de faire payer 10 fois. Donc, l'impôt sur les âmes, comme on le dit, la capitation plutôt que l'impôt sur les feux, va être un des leviers pour augmenter les ressources fiscales de l'Empire. C'est le propriétaire, donc le noble qui possède la terre, qui est chargé de la perception de l'impôt, surtout le personnel, donc les serfs ou les métayers. Et donc là aussi, ça, C'est un changement.
Mais donc, c'est un impôt qui profite uniquement au propriétaire.
Non, parce qu'il doit le reverser à l'État.
Ah oui.
Mais lui, il est chargé de la perception. Je pense qu'il doit prendre quelque part un
N'en
delta.
doutons pas. Toute
Mais
petite
voilà.
part, bien sûr.
Il doit être intéressé à l'affaire. Mais du coup, c'est pas idiot parce que ça permet de pas financer une administration fiscale, de faire l'économie d'une de percepteur d'impôts et d'utiliser les ressorts de la société pour pouvoir lever l'impôt.
Oui, c'est ce qui se fait en
Et
France, avec les entreprises avec la
la
TVA ou
TVA, bien
les
sûr.
notaires avec
Les
les
frais de
droits de
succession.
mutation et les droits d'enregistrement,
Ouais.
etc.
C'est vrai, c'est vrai. Alors dans les différents décrets sur liés au servage, il y a un texte de Pierre Legrand, un édit, où il cherche à réglementer la vente des serfs, en fait. Hein, parce que, ok, vous appartenez à un seigneur, vous ne pouvez plus bouger, contrairement au Moyen-Âge, et quitter ce seigneur pour aller voir un autre. Mais du coup, le seigneur peut vous vendre à un autre. Et donc, c'est de la vente d'esclaves, quelque part. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interdire que les familles soient séparées. Donc, si vous vendez vos serfs, vous devez les vendre par famille et pas par. Vous pouvez pas séparer le mari de la femme, les parents des enfants, etc. Bon, on dirait que c'est une mesure de justice, même si ça peut quand même un peu faire douter des volontés de modernité de Pierre le Grand. Mais au moins, bon, voilà. Voilà. On peut le lire comme quelque chose de positif quand même. Alors là où le changement sociétal va être plus important, c'est dans les villes, où là les gens vont être répartis en trois classes. Donc vous appartenez soit à une classe, soit à une autre, et voilà. Alors la première classe va concerner les banquiers, les manufacturiers, les riches commerçants, les médecins, les pharmaciens, les capitalistes, les marchands, les orfèvres et les batteurs de métaux, les artistes également. La seconde classe va concerner les petits commerçants, les maîtres de métier, et la troisième classe, c'est tous les autres, donc le bas peuple, les journaliers, les petits artisans. Et donc les deux premières classes vont prendre un nom germanique, on va les appeler première et guilde et deuxième guilde. Donc vous appartenez à la première guilde ou à la deuxième guilde, et elles vont recevoir des privilèges administratifs par la suite.
Alors, est-ce que c'est l'équivalent de nos ordres d'Ancien Régime?
Un peu, quelque part, il y a cette volonté de structurer la société et de la faire rentrer dans des cadres de devoirs. Et ça va être encore plus prégnant et plus visible avec la noblesse.
Parce que ces trois cases là, c'est pas pour la noblesse.
Non, c'est pour
C'est
les bourgeois des villes, en
voilà,
fait.
c'est à
C'est pour
l'intérieur
la
du
population
troisième
des
ordre.
villes, oui. Et en fait, vous aurez des droits aussi en fonction de la guilde à laquelle vous appartenez. Alors, soit dit en passant, eux, les étrangers, sont plutôt privilégiés dans le système sociétal de Pierre le Grand, puisqu'ils ont liberté de vaquer où ils veulent pour commercer ou pour construire des manufactures. Ils peuvent acheter des bâtiments, ils peuvent se marier avec des Russes sans problème, ils peuvent même entrer au service de l'État russe. On leur garantit la liberté de culte, donc ils peuvent avoir des églises. Protestantes ou catholiques, et dans Saint-Pétersbourg, il y aura des églises protestantes et catholiques dans la Nevski Prospect, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et on les laisse même s'en aller de Russie une fois qu'ils auront fait leur affaire et leur commerce, à condition d'abandonner la dîme de leurs biens à l'État russe. Donc le dixième de l'impôt. C'est pas énorme finalement, on peut faire un bon commerce en Russie et puis partir en laissant 10% de ses gains sur place. C'est pas si mauvais. Ouais.
D'accord.
Alors là où c'est plus impressionnant dans le changement et dans la rigidification, c'est dans la noblesse. Parce que jusqu'alors, la noblesse, bon, c'est d'une noblesse traditionnelle, terrienne. Il y a des grands nobles, les grands boyards, il y a des petits nobles aussi, souvent désargentés.
Mais il y a un nombre raisonnable.
Ah, ils sont nombreux, ils sont très
C'est
nombreux. Pas
aussi
autant qu'en
autant qu'en
Pologne,
Pologne.
ou parfois en Pologne, dans certains villages, il y avait 99% de nobles et puis 1% de non-nobles, quoi. Donc,
Oui, on dit que c'était le pays d'Europe avec le plus gros pourcentage. On parle de 10 à 20% de la population qui était
noble.
Et je crois que j'avais déjà raconté une blague qui était chez les pays voisins qui se moquaient des nobles polonais. Je crois que c'était en... Un mot hongrois, je crois, qui disait que un noble polonais qui avait une vache sur son terrain, il y avait la tête qui était chez le voisin et la queue chez l'autre voisin, tellement le terrain était petit.
Alors, le grand changement pour la noblesse, c'est qu'en fait, on va passer d'une noblesse de tradition, d'héritage, où on hérite de son caractère de père en fils, à une noblesse de service. C'est-à-dire que et ça va être le cas jusqu'à la Révolution russe. Hein. Ok, vous appartenez à une famille noble, mais vous pouvez aussi être agrégé à la noblesse par votre métier, votre fonction dans l'administration. Et du coup, même quand vous appartenez à une famille noble, immémoriale, etc., vous devez aussi, par conséquent, avoir une action positive dans l'administration. Vous êtes redevable. Vous devez contribuer au gouvernement, etc. Alors, du coup, il y a tout un système de hiérarchie des nobiliaires qui va être établi en 14 degrés, et qui va subsister jusqu'à 14 classes de noblesse, qui va subsister jusqu'à la révolution bolchevique.
Donc, trois classes dans le tiers-état.
Non, c'est que la...
mais il y avait trois classes
pour les villes, pour les bourgeois des villes.
14 classes pour la noblesse.
Voilà, 14 classes pour la noblesse, et vous appartenez à telle classe. Et
est-ce qu'il y a possibilité de passer de l'une à l'autre?
Oui, tout à fait, parce que c'est souple, et puisque c'est une noblesse quelque part administrative. On est très proche de ce qui va être mis en place par Napoléon Ier. Avec ses barons d'empire, avec ses généraux maréchaux, princes et ducs, c'est qu'en fonction de votre état, dans l'armée, dans l'administration, même dans l'église, eh bien, vous allez appartenir à telle classe de la noblesse. Et quelque part, ça transforme la noblesse d'une charge héréditaire à une charge sociétale au service de l'État. Et mine de rien, c'est énorme, en fait. Hein.
Et ça, c'est mis en place par Pierre le Grand.
Vous devez vous mettre à la disposition du gouvernement parce que vous êtes noble.
Ça, c'est Pierre le Grand qui le met en place.
Oui. Alors, il y avait cet aspect dans la noblesse d'Ancien Régime en France. Par exemple, quand vous étiez noble en France, une chose peu connue, mais vous deviez un trimestre par an à une activité militaire pour l'armée française. Donc, vous deviez passer... un quart de votre année sur les champs de bataille, voilà, parce que c'était une obligation. Mais là, c'est systématisé, voilà. Donc il y a trois fois 14 degrés, parce que vous pouvez être dans l'un des degrés des registres de la noblesse. Alors il faut en plus enregistrer votre blason, etc. Donc ça a donné lieu à des ouvrages, des registres de noblesse qui sont assez fabuleux. Dans l'administration, alors dans l'ordre civil, vous commencez le plus bas des degrés, vous êtes registrateur de collège. Et le dernier degré ultime, 14e degré, chancelier d'empire. Et dans l'ordre militaire...
Chancelier, qu'est-ce que c'est? C'est le premier ministre, le principal ministre?
Oui, non, c'est...
Mais c'est un ministre.
C'est un des ministres, oui. Dans l'ordre militaire, le plus bas degré de la noblesse, vous êtes cornette ou porte-enseigne et vous finissez feld-maréchal.
Pas tout le monde.
Non, voilà. Mais vous voyez, vous pouvez passer d'une classe à une autre en fonction de votre avancement. C'est... si vous êtes dans la marine, vous commencez enseigne de vaisseau et vous finissez grand amiral dans le 14e degré. Et à la cour, vous commencez comme chargé de table et vous finissez grand chambellan. Et même dans l'église, en fait, la hiérarchie ecclésiastique va être calquée. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire 14 grades. Depuis métropolite le plus haut jusqu'à simple sous-diacre en bas.
Ils en ont fait 14.
Oui. Et archiprêtre mitré.
Et ça, ça a subsisté après la Révolution dans l'Église ou...
Bah, non, et puis c'était plus d'un cadre de l'administration impériale, en fait. Hein, donc, la hiérarchie de l'Église a aussi des degrés hiérarchiques, naturellement. Mais
il n'y en a plus 14.
Il n'y en a pas 14, oui. Et voilà.
Après... Est-ce que cette organisation de la noblesse fera du bien au pays?
Bah, disons qu'on est moins sur... C'est pas mal, parce que c'est pas une noblesse figée comme en France, où vous êtes... parce que là, vous pouvez accéder à la noblesse, simplement en faisant des bonnes études et en devenant... directeur de collège, etc. Et hop, vous êtes dans l'ordre de la noblesse.
Mais ça devient... Donc, c'est héréditaire ensuite ?
Il y a une partie d'hérédité où... oui.
C'est-à-dire que chaque recteur de collège, ses fils seront nobles.
Oui. Mais ils sont tenus aussi à être au service de l'État.
Et être principal de collège ou ils peuvent faire autre chose ?
Ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent s'engager dans l'armée. Ils peuvent accéder à d'autres grades dans l'armée parce que le père, justement, fait déjà partie de l'ordre de la noblesse. Mais disons que c'est un système qui permet l'accession par volonté de servir l'État. Et ce qui est quand même aussi un des principes de base de la noblesse occidentale, la volonté de servir. Mais là, on va la systématiser au service du tsar, quelque part. Alors, là, il y a aussi un changement radical dans la société, c'est le droit de succession. Parce qu'on était encore en Russie dans le vieux système hérité des Varegs, des Scandinaves, des Suédois, où en fait, tous les frères partageaient entre eux, et il n'y avait pas de privilège d'aînesse. Et même les souverains, on l'avait vu dans nos émissions, c'était pas le fils qui héritait, mais c'était le frère puis né jusqu'à extinction. Et bon, ça avait été changé déjà, mais Pierre le Grand va instituer le majorat. C'est-à-dire qu'au lieu d'une transmission des biens, notamment de la noblesse, mais pas uniquement, hein, des bourgeois, des villes également, au lieu d'une transmission... égal entre les frères et sœurs de l'héritage paternel, eh bien c'est que le fils aîné qui va hériter.
Et les autres n'ont rien du tout ? Ils ont une petite quote-part ?
Non. Alors ça, le majorat est connu plutôt en France, mais encore, il y a certaines régions d'Ancien Régime, en Champagne par exemple, où l'aîné héritait d'une part un peu plus importante que ses frères et sœurs, mais ils héritaient tous. Et là, il se calque en fait sur l'usage allemand. Et donc, la terre noble en particulier, les fiefs ne vont être possédés que par le fils aîné. Et là, c'est une rupture avec la tradition russe où on partageait la terre, en fait.
Et s'il n'y a pas de fils, ça passe, on ne sait pas.
Ça, je ne sais pas. l'idée de Pierre le Grand, c'est que la noblesse russe est trop appauvrie suite au partage des terres. Et donc, en fait... on se retrouve avec une noblesse parfois complètement désargentée qui n'a plus rien, comme la noblesse polonaise, ce que vous évoquiez. L'idée de Pierre le Grand est que l'aîné hérite de la terre et que les cadets, du coup, pour soutenir leur état de noblesse, soient obligés de rentrer dans l'administration ou dans l'armée ou dans l'église. Et donc de se mettre au service de l'État. Plutôt que de partager la terre et chacun reste sur son petit bloc de terre, il trouvait ça plus intelligent. Donc voilà, ça a été pensé comme ça.
Est-ce que ça a fonctionné ?
Alors ça a été très très mal, accueilli par la société russe. C'était un des points où il y a eu beaucoup de résistance. Et en fait, ça n'a pas survécu à Pierre le Grand. On est revenu à un partage entre héritiers des terres par la suite. Dans la même optique, en fait, une chose intéressante, je trouve, comme voilà, vous n'êtes pas l'aîné, vous êtes le cadet, votre frère hérite de la principauté, des terres, des serfs et tout, et vous, vous devez vous mettre au service de l'État, et pour ça, Il faut pas être un ignorant. Il faut pas être. Il faut savoir lire,
faire
écrire,
des
etc.
études.
Il faut faire des études. Et du coup, vous pouvez être admis dans un autre des 14 degrés du registre de la noblesse, mais à condition de prouver que vous avez fait des études. Et ça va aller jusqu'au mariage, c'est-à-dire qu'un cadet qui ne sait pas lire ou écrire et qui est
Il a une très faible valeur
oui,
maritale.
il ne peut plus, il peut pas se marier.
Ah, il n'a pas le
Il est
droit?
interdit par la loi de se marier. Il faut qu'il apprenne à lire et écrire et qu'il sache le. Voilà, parce que.
Est-ce que ça va subsister à Pierre le Grand?
L'aîné, lui, non, il peut être ignorant parce qu'il a sa terre, donc il
Mais
va.
est-ce que ça va subsister à Pierre le Grand, ça?
Oui, ça, je sais pas. Mais il y a aussi une autre disposition. Alors là, on est plus, c'est plus dans les aspects des lois sur l'Église qu'on verra peut-être une autre fois. Mais il va interdire de devenir moine avant 30 ans. En fait, parce que l'idée, c'est que les jeunes nobles puînés puissent plutôt devenir officiers dans l'armée, en fait. Et donc, on verra aussi, il va instituer beaucoup de collèges militaires. C'est avec une grande préoccupation. Et pour lui, l'instruction va avec l'armée. Il faut que la jeunesse soit éduquée, mais pour pouvoir faire de bons guerriers, en fait, hein. Voilà. Alors, en revanche, là où il se remonte, il va se révéler plus moderne, en tout cas plus occidental, c'est toutes les règles liées aux femmes. Parce que la Russie était encore très asiatique, pour le coup. Vous vous souvenez, les princesses russes étaient.
Malgré les régences successives
Oui,
de femmes.
c'est vrai, on a eu plusieurs régences, mais la régence de Sophie qui parlait derrière un petit voile et qui chuchotait ce qu'il fallait faire, voilà. On avait. Alors, c'était pas un harem, le nom n'était pas existant. N'existait pas, mais c'était le térem, c'était le gynécée, en fait, hein, qui était fermé notamment pour les princesses. Les femmes, lorsqu'elles sortaient, devaient être dans des litières avec des rideaux pour pas qu'on les voie. Enfin, les femmes de la haute aristocratie, on devait mettre des voiles sur le visage aussi, etc. Donc ça, tout ça, c'est aboli, c'est interdit. Et il y a aussi une réforme intéressante, c'est que les mariages contraints ne sont plus autorisés. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus obliger votre fille à épouser
Un vieux
un vieux
duc
comte
fortuné.
fortuné. Il doit y avoir obligatoirement 6 semaines de fiançailles, ce qui est une nouveauté parce que dans la tradition russe orthodoxe, on se fiance le jour de son mariage, en fait. Hein. On se fiance juste 5 minutes avant la messe de mariage, enfin avant la cérémonie du mariage. Donc là, au moins pendant ce temps de fiançailles, le fiancé devra librement pouvoir fréquenter sa fiancée. Et les deux jeunes promis ont le droit de rompre s'ils ne se plaisent pas. Les pères et les tuteurs doivent jurer qu'ils ne marient plus les jeunes gens malgré eux et que les maîtres ne forceraient pas le consentement de leurs serfs aussi lorsqu'ils les marient.
Parce que donc les serfs peuvent se marier.
Les serfs peuvent se marier, mais ils peuvent se marier librement. C'est plus le maître qui décide qui vous épousez. Ça, c'est quand même un progrès. Voilà. Autre progrès, je trouve intéressant. Pierre le Grand va lutter contre l'infanticide, en fait, hein. Il y a des lois, il y a toute une législation qui paraît notamment pour prévenir les sages-femmes d'éviter de faire périr les enfants volontairement.
C'est mieux que ce soit pas volontaire si un enfant périt.
Oui, non, mais parce que si vous aviez un enfant avec des malformations, etc., on faisait mourir. Bon, donc ça, c'est interdit. Et aussi, c'est une politique aussi de renforcement démographique, en fait, qu'il met en œuvre. Et il veut que la Russie soit bien peuplée,
Ça
soit
va
même
très
presque.
bien fonctionner.
Ça va bien fonctionner. Oui, ça pose pas
Puisque
de.
jusqu'au XXe siècle, c'était une démographie
Galopante.
galopante.
Galopante, oui. Alors, pour moderniser aussi la société, il va instituer, ce qu'il va appeler des assemblées. En fait, c'est des réunions mondaines, libres, qui ont lieu dans une maison quelconque, et où les hommes et les femmes doivent venir à ces soirées en costume européen. On va danser ensemble.
Quels hommes et femmes?
De la société, en fait.
Donc des nobles.
Des nobles, ou pas. Et on va utiliser les Suédois prisonniers à Poltava comme professeurs de maintien ou professeurs de danse. Donc on va leur apprendre des danses allemandes, des danses suédoises, des danses polonaises. Voilà, il faut que la société se divertisse. Et en fait, il va aussi instituer des carnavals, des fêtes, des mascarades, en fait, chose qui était complètement inconnue en Russie, pour donner un air de fraîcheur à la société. Bon. Et aussi pour forcer quelque part
c'est
une mixité.
C'est un peu l'ancêtre de Jack Lang, en fait.
Une mixité sociale entre hommes et femmes. La Russie était très archaïque sur ce plan-là, et en fait, les femmes vivaient de leur côté, les hommes aussi, et les deux sociétés ne se rencontraient pas, ne se mélangeaient pas. Donc,
il y avait eu aussi une longue occupation avec les hordes.
Tatars, oui. Oui, bien sûr.
Qui avait peut-être influencé.
Mongol avait dû influencer ça, oui. Il va aussi changer il va interdire les prosternations devant lui, le tsar, en fait. Donc il n'est plus vénéré comme un demi-dieu, comme c'était le cas dans le passé. Donc il y a plus les trois prosternations avant, une prosternation se retirant. Les diminutifs, les épithètes trop laudatifs dans les correspondances qu'on lui adresse doivent être supprimées, etc. Il veut moderniser les usages de cours également.
Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est du chichi ou c'est... Il y a un vrai but derrière tout ça?
Oui, il veut quand même montrer que c'est un souverain égal à un roi d'Angleterre, un roi de Suède ou un roi de France, mais il veut pas... Voilà, et puis c'est là cette belle formule. Il habituait à coups de canne ces gentils hommes à se sentir des hommes libres et des Européens. Et c'est un peu ça, quand même. Voilà. Alors après ces réformes sociales ou sociétales, il va surtout engager des réformes administratives. Et la plus grande d'entre elles, c'est la création d'un Sénat. Jusqu'à présent, on avait les Ziemski Sobor, c'est-à-dire un genre d'états généraux qui regroupait principalement le clergé et les grands boyards, après s'était transformé en genre de Douma des boyards. Et là, on a un Sénat, donc une institution cadrée avec des règles, avec des règlements, alors que jusqu'alors les...
qui siège à Pétersbourg.
Et qui va siéger auprès de Pierre, oui. Alors, au départ, il est à Moscou, Saint-Pétersbourg n'est pas encore édifié, mais qui va être auprès du prince, qui est un Sénat très très restreint, un genre de conseil à vrai dire, puisqu'au départ, il ne comporte que 9 membres, mais très vite, leur nombre va s'accroître à plusieurs dizaines, voire centaines. Et c'est surtout un organe permanent, qui va jouer un peu un rôle de conseil de gouvernement, cours de finances, cours de justice aussi. Et alors Pierre ordonne d'obéir au Sénat comme si c'était lui-même, mais en revanche le Sénat, pour toutes les questions importantes, fait un rapport au tsar qui est libre ou pas de suivre l'avis du Sénat sur la question. Donc c'est plus un organe de conseil, mais en même temps un organe de jugement, une cour de justice aussi qui va rendre les lois.
Et ça existera jusqu'à la Révolution.
Oui, tout à fait. Et en fait, lui va être assez insatisfait du comportement des premiers sénateurs, parce qu'il trouve qu'ils traitent trop les affaires à l'ancienne mode, en fait. Il trouve que ça traîne trop, que ça discute pendant des heures, comme dans les anciennes Doumas, que ça se laisse influencer par des pots de vin, par... voilà. Et donc...
Reste possible.
Et donc, pour préserver son nouvel organe de gouvernement des mauvais usages du passé, il va faire tout un règlement avec des détails cocasses. Par exemple, il est interdit aux sénateurs, alors il y a des peines de knout et tout, hein, de crier, de se battre entre eux ou de se traiter de voleurs réciproquement pendant les assemblées du Sénat. Et si le règlement a été fait, c'est que ça devait se faire. Voilà. Il va aussi avoir à côté du Sénat, sur les conseils de Leibniz et sur le modèle allemand, il va faire des collèges de gouvernement. Alors il faut imaginer en fait ce qui se rapproche le plus, c'est son ministère. C'est-à-dire que jusqu'alors, dans les différents royaumes d'Europe, on a parfois autour du souverain des ministres, mais il n'y a pas réellement un
Un
ministère
ministère avec une
avec une
administration dédiée au
administration.
ministre.
Voilà, c'est ça. Et exactement. Et donc il va en créer 10, ces 10 ministères, ces collèges de gouvernement plus exactement: affaires étrangères, guerre, amirauté, trésor, revenus, justice, terres nobles, manufactures, mines et commerce. Et en fait,
Amirauté, ce sont seulement les ports.
oui, la marine. Et en fait, c'était un vieux pieux, mais en fait, il s'est heurté de front au réel, c'est-à-dire qu'en fait, c'était bien beau d'instituer des ministères, mais qui mettre dedans? Et en fait, ils se sont trouvés un peu dépourvus au départ, et donc, il a fallu mettre des étrangers. Et en fait, ces ministères vont être peuplés d'étrangers, y compris des prisonniers suédois de Poltava, qui vont se retrouver comme officiers de ces ministères. Et donc, il fallait se faire comprendre et il a fallu engager des interprètes en nombre également pour que ces différentes nouvelles administrations puissent travailler correctement. Et en fait, il a du mal à trouver son cadre administratif ministériel. Et du coup, il envoie des jeunes gens, 40 jeunes gens, se former à Königsberg pour apprendre l'administration et la comptabilité, en fait. Et en fait, une chose intéressante aussi dans la création de ces ministères, de ces collèges d'administration, de collèges de gouvernement, eh bien, le président de chaque collège, qui est en quelque sorte le ministre, en fait, eh bien, il va pas être forcément choisi par Pierre le Grand. Donc, pour une fois, il lâche un peu du lest sur l'autocratie. Mais le chef du collège va être choisi collégialement aussi. Alors, non seulement par l'administration du collège, mais aussi par les sénateurs, les généraux supérieurs de l'armée et des membres de la noblesse. Voilà. Donc, il y a un genre d'élection. Alors, les électeurs doivent prêter serment au tsar d'abord. Hein, et puis ensuite, ils élisent le chef de chaque collège de gouvernement. C'est un peu étrange comme façon de
Ouais.
procéder et un peu inhabituel. C'est comme si on élisait chacun de nos ministres, nous en France. Mais pourquoi pas, finalement, ça pourrait être une option politique intéressante à creuser, je ne
Y
sais
aurait
pas.
peut-être encore plus de mouvements qu'aujourd'hui.
Voilà. Alors, bien sûr, après, ça, c'est l'administration centrale, mais il faut s'occuper aussi de l'administration provinciale. Et là, c'était très fantaisiste jusqu'avant Pierre le Grand, évidemment. On avait des voïvodes, globalement, pour simplifier, qui s'occupaient à la fois de la guerre, de la perception des impôts, de rendre la justice, de tous les problèmes liés à la vie de la province. Déjà, Pierre va diviser son empire en 12 gouvernements, subdivisés en 43 provinces. Les 12 gouvernements vont être chacun gouvernés par un gouverneur et un vice-gouverneur, et les 43 provinces par des voïvodes. Voilà. Et dans chacune de ces instances de gouvernement local, aussi bien dans les gouvernements et dans les 43 provinces, il y aura un conseil, un Landrat, avec des membres élus par les gentilshommes de la province, en fait. Les villes ne sont pas en reste, elles vont être aussi régulièrement pourvues d'une administration, parce que là encore, c'était l'anarchie d'une ville à une autre. Il pouvait y avoir des guildes de commerçants qui contrôlaient la ville, et, des vieux héritages du Moyen-Âge. Là, on va avoir une administration fixe dans toutes les villes de l'Empire.
Notamment les... de la Hanse, j'imagine, puisque nous avions vu au début de ces émissions que pas mal de villes du Nord étaient dans la congrégation ou la communauté de la Hanse.
Oui. Novgorod avait une administration municipale, c'était une république de marchands, hein. c'était un peu complexe. Donc là, on va avoir un système avec les citadins. Donc les trois ordres qu'on a décrits vont élire des bourgmestres, en quelque sorte des conseillers municipaux, qui vont se choisir entre eux un maire. Et qui s'appelle président. Et donc le conseil municipal, composé de bourgmestre et du président, du maire, vont former le Rathaus. Donc on récupère toute la
terminologie allemande.
Toute la terminologie allemande, hein, bien sûr. Et dans certaines circonstances, les bourgeois de la première guilde et de la deuxième guilde, mais pas ceux qui n'appartiennent à la troisième classe des habitants des villes, hein, sont aussi convoqués dans des conseils élargis pour régler certains problèmes particuliers de l'administration de la ville. Voilà, donc...
Ça va perdurer ensuite
Je pense, oui, ça va être perduré. Oui. Après, c'est assez proche d'un système moderne comme on a en France,
oui,
en fait.
Mais
hein,
c'est pas très autocratique, ça.
Non, pour le coup. Oui. Alors, je pense qu'il cherche surtout à organiser, à donner des cadres, en fait. Hein. On voit bien qu'il y a une politique de systématisation là où c'était un peu l'anarchie réglementaire. La justice, maintenant, ça, c'est une grande question aussi. Il faut organiser une justice un peu autonome qui ne soit pas rendue forcément par les édiles des villes ou bien les gouverneurs des provinces. Donc on va créer une magistrature avec un magistrat supérieur qui sera le magistrat principal. Qui va
en fait, c'est leur métier à temps plein, quoi.
Oui, alors c'est un peu on n'a pas encore une magistrature complète. La justice de base va être rendue par le Rathaus, c'est-à-dire le maire et ses bourgmestres, mais il y a un contrôle avec un cadre, une administration par-dessus, mais pour vérifier en fait que les décisions de justice qui sont rendues par les municipalités soient correctes et ne soient pas arbitraires. Ce cadre judiciaire est mis en place pour les villes, mais en revanche, les campagnes restent toujours dans leur situation très patriarcale. Donc les communes rurales ne voient pas leur statut changer. Mais il y a une première structure, un embryon de magistrature qui apparaît pour les villes, en tout cas. Pierre, évidemment, voilà, il y a d'autres aspects encore qu'on pourrait évoquer, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il veut mettre un cadre administratif clair, identifiable, sur tout le territoire de l'Empire russe. Évidemment, il y a des lourdeurs, et surtout, la plus grande lourdeur, c'était que pendant très longtemps, la formule d'investiture d'un magistrat par le tsar était « vis de ta charge et rassasie-toi ». Et donc, en fait, beaucoup de cadres administratifs sont encore dans cette mentalité, très ancrée. Et du coup, évidemment, ça donne des exactions et des abus de pouvoir à tous les rangs de l'administration. C'était la tradition, mais Pierre veut lutter contre ça, évidemment. Et là, il a été vraiment acharné, y compris contre parfois les premiers personnages de l'Empire, en fait. Contre la corruption. Et donc, il y a plein de cas de personnages de haut rang qui ont été qui ont été
destitués
ou condamnés par Pierre et qui s'est personnellement occupé de leur cas. Notamment, il y a un gouverneur de la ville d'Astrakhan qui avait un peu trop, qui était c'était un peu trop nourri sur sa charge et qui avait été traîné par des porcs, attaché à des porcs. C'était encore un supplice sympathique. Il y en a plusieurs autres qui ont été un gouverneur de Sibérie, celui de la ville de Revel aussi, qui ont été décapités pour leur mauvaise gestion. Un autre fut gracié juste avant que la hache du bourreau ne tombe sur lui, sur son cou. Voilà. Et Pierre s'attache vraiment à la corruption et au vol dans l'administration. Il va lui-même contrôler les registres de dépenses de l'Empire. Lorsqu'il détecte qu'il y a des vols par des intendants, il va lui-même donc agir et parfois...
Et cela va-t-il réussir jusqu'à la mort. Améliorer la situation ?
Oui, globalement, oui. Même si on peut imaginer que la corruption reste encore présente. Il y a une autre, alors c'est pas tout à fait la corruption administrative, mais il y a un autre souci dans l'armée, c'est le recrutement, c'est-à-dire que les capitaines ont plutôt tendance à aussi exercer leur corruption sur leurs recrues. Et donc souvent le troufion de base est ratiboisé par les officiers. Donc là encore, Pierre va mettre en place un système de dénonciation où vous pouvez dénoncer celui qui vous a volé dans l'armée. Et ça va plutôt bien fonctionner. Parce que en plus, la personne qui dénonce récupère la fortune de celui qui l'a dénoncé.
Ah oui, alors j'imagine que ça...
ça fonctionne bien. Voilà, alors le...
quand même des réformes d'ampleur dans tous les domaines.
Il va essayer de faire un nouveau code. On vivait encore sous le code de loi d'Alexis Romanov, Alexis Ier. Il a essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné pour le coup. Il a voulu prendre le code de loi suédois tel quel.
Et le transposer.
Et en fait, évidemment, c'était inapplicable. Et donc... il a fallu réviser simplement le code de loi d'Alexis Ier, qui était le dernier voilà. Donc il y a toujours la torture qui est gardée, mais les applications de la torture sont substantiellement réduites.
Ben merci beaucoup, cher Henri, pour toute cette présentation des grandes réformes de Pierre le Grand, qui, je crois, vont marquer durablement la Russie, vont la faire rentrer dans l'ère moderne et vont lui permettre de prendre place dans le concert des grandes puissances européennes dans laquelle elle va s'affirmer tout au long du XVIIIe siècle, que nous aurons le temps de voir ensemble le mois prochain. Et c'est vrai que
le mois prochain, on va voir surtout la réforme de l'Église, parce que là,
il y a
de quoi dire. C'est une des nombreuses réformes de Pierre le Grand.
Alors, dans 2 mois. Si on ne passe pas plusieurs mois sur la réforme de l'Église. mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que il y a peu, vous nous parliez de la Russie sous Ivan IV, etc. Et de voir en un siècle le
progrès.
Le progrès, changement, ça a été vraiment à marche forcée, comme ça sera un peu au XVIIIe siècle et puis au XIXe siècle aussi. Donc merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre attention et merci Henri pour
merci Benjamin
exposé. Et restez à l'écoute de Radio Courtoisie pour la seconde partie de cette émission. Et quant à nous, nous retrouvons dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Benjamin Blanchard, émission préenregistrée le 23 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 1er août de 19h30, de 18h pardon, à 19h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.